De Radio Maria France, c'est une grande joie d'être avec vous via les ondes pour ce 7e épisode de votre série historique et spirituelle consacrée cette année à l'histoire des conclaves, cette réunion depuis le 13e siècle des cardinaux de notre Église catholique dans un lieu fermé et gardé pour élire un pape. Notre épisode du mois dernier était consacré aux conclaves de l'époque moderne du XVIe au XVIIIe siècle. Il était intitulé « Le droit de veto ou d'exclusive », c'est-à-dire le droit que se sont arrogés du XVIe siècle à 1903 trois puissances, trois États, l'Autriche, l'Espagne et la France, le droit de s'opposer nominalement à l'élection d'un cardinal à la papauté. Vous pouvez d'ailleurs écouter, réécouter cette émission en podcast sur le site de radiomaria.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les conclaves dans la tourmente des révolutions au XVIIIe et XIXe siècle. Je rappelle que l'ensemble des cardinaux forme le sacré collège. Il a à sa tête un cardinal doyen, traditionnellement évêque d'Ostie, et un cardinal sous-doyen. Après le long pontificat du 247e pape, Benoît XIV de 1740 à 1758, une figure attachante que l'on avait découvert le mois dernier, lui succèdent deux papes qui ne sont élus qu'après de longs conclaves. Le 248e pape, Clément XIII, un Vénitien, le 6 juillet 1758, élu après 50 jours de conclave. Et puis le pape suivant, Clément XIV, élu le 19 mai 1769, après plus de 3 mois de conclave. Le rôle du cardinal de Bernice, ambassadeur à Rome dans ce conclave et sa correspondance avec le duc de Choiseul, qui est le ministre de la guerre et équivalent du premier ministre, sont bien connus. Il est un des deux porteurs, avec le cardinal de Luynes, du secret du roi, c'est-à-dire des instructions du roi Louis XV et de Choiseul pour le conclave. La France porte l'exclusive, c'est-à-dire le veto, sur 5 cardinaux et l'Espagne, de son côté, sur 21 cardinaux. Mais comme souvent, il suffit aux cardinaux chargés de l'exclusive de faire comprendre qu'ils peuvent la proclamer solennellement pour n'avoir pas besoin de le faire. Dans ce conclave du milieu du XVIIIe siècle, de 1769, on peut s'interroger sur la pertinence d'exclusives trop nombreuses. Elles s'annulent faute de pouvoir être réellement proclamées. Les archives révèlent qu'il faut près de 180 scrutins pour arriver à l'élection du pape Clément XIV. Au premier vote, le 16 février 1769, les 46 cardinaux présents, ils sont peu nombreux, dispersent leur voix sur 13 candidats. Trois cardinaux sont arrivés en tête avec 12 voix cependant, le doyen du Sacré Collège, le légat de Romagne et l'ancien définiteur général, c'est-à-dire l'assistant du supérieur général franciscain Giovanni Jean Vincenzo Jean-Vincent Ganganelli, ça sera le futur pape. Mais 4 mois plus tard, il ne recueille que 7 voix. Son élection aurait été facilitée par l'engagement qu'il aurait pris sous la forme d'un billet écrit à 2 cardinaux espagnols et une promesse orale faite à Bernice, le cardinal de Bernice, l'ambassadeur à Rome français, disant « Je reconnais au souverain pontife le droit de pouvoir éteindre la compagnie de Jésus et il est souhaitable que le futur pape fasse tous ses efforts pour satisfaire le vœu des couronnes. » Des royautés. La question reste l'objet de débats entre historiens. En revanche, il est vrai que la suppression des jésuites en 1773 est un des actes majeurs et les plus controversés de son court pontificat. Il n'a duré que 5 ans. Après la mort de ce pape, Clément XIV, le 22 septembre 1774, le conclave se tient pour la première fois au palais du Quirinal. Le Quirinal est la plus élevée des 7 collines de Rome. Le 226e pape, Grégoire XIII, le successeur de Saint-Pie V y a fait construire, dès le XVIe siècle, en 1583, un palais d'été, devenu progressivement la résidence habituelle des papes. Les conclaves ont pourtant continué à se dérouler au Vatican, dans des conditions matérielles et sanitaires difficiles, qu'aggrave le Tibre proche et ses eaux stagnantes pendant les mois chauds. À plusieurs reprises, au XVIIe siècle, des cardinaux sont tombés malades juste après les conclaves et certains en sont même morts. Ce transfert du Vatican au Quirinal va améliorer notablement les conditions matérielles de l'élection du pape. Pendant un siècle, tous les conclaves, hormis celui qui devra être réuni à Venise en 1800, on le verra, se tiennent au Quirinal, sans d'ailleurs que leur durée en soit raccourcie. C'est au terme d'un conclave de plus de 4 mois, car partagé entre deux parties, celui des couronnes dévouées au roi Bourbon, et puis celui des Zélanti, pour l'indépendance du Saint-Siège à l'égard des gouvernements, pour la liberté du pape, que le cardinal Gianangelo Jean-Ange Braschi, un noble italien de Romagne âgé de 58 ans, est élu le 15 février 1775, 250e pape. Il prend le nom de Pie VI, s'inscrivant dans le sillage du plus grand pape de la réforme catholique, Saint Pie V. Le pape Pie VI sera pape pendant 24 années, de 1775 à 1799, soit le plus long pontificat que l'Église ait connu jusqu'à cette date, excepté évidemment le ministère de Saint-Pierre. Il est confronté aux tentatives des différents pays pour contrôler l'Église. D'abord l'empereur Joseph II en Autriche, puis la Révolution française évidemment. Il condamne successivement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, « si contraire à la religion et à la société ». Il condamne évidemment la Constitution civile du clergé en 1791 et le serment de fidélité exigé envers les évêques et les curés. Napoléon Bonaparte le contraint à céder une partie des États pontificaux. Rome est finalement occupée par les troupes françaises en 1798. Une république romaine est proclamée. Le pape Pie VI doit se réfugier en Toscane. Fait prisonnier par les troupes françaises, il est emmené en France, à Grenoble, ensuite à Valence, où il meurt, martyr, le 29 août 1799. Notre Église catholique se trouve dans une des situations les plus dramatiques de son histoire. Le pape est mort, exilé et en prison. Rome est envahie par des troupes d'occupation. Les États pontificaux n'existent plus. Les cardinaux sont dispersés dans de nombreux pays d'Europe. L'Église est désorganisée et victime de cruelles persécutions. Elle est dans la tourmente des révolutions. Pie VI, le pape a modifié de manière préventive les règles de l'élection pontificale pour faire face aux situations exceptionnelles. Deux bulles, écrits du pape, officielles, ouvrent la possibilité pour les cardinaux de tenir un conclave hors de Rome. Il est également décidé que le lieu et la date du conclave seront fixés par le doyen du Sacré Collège et qu'une majorité des cardinaux présents suffira pour la validité de l'élection. La majorité des 2/3 des voix pour être élue est réaffirmée. Cet assouplissement des règles facilite la réunion d'un conclave à Venise sous domination autrichienne 3 mois après la mort du pape. L'abbaye bénédictine San Giorgio, Saint-Georges, réunit les conditions optimales pour assurer la sécurité et l'isolement du conclave. Située sur l'île du même nom, cette abbaye, Saint-Georges, dans la lagune, face au palais des doges, est facile à garder. Le monastère est réaménagé, des cellules en bois sont construites dans le grand dortoir, d'autres au noviciat, dans la salle des archives et même dans un corridor. La grande bibliothèque est aménagée en chapelle, c'est ici que se sont déroulés les votes. Le conclave s'ouvre le 1er décembre 1799 et ne s'achève que le 14 mars 1800 après plus de 100 jours, 104 jours. Son déroulement est connu notamment par le journal et les mémoires rédigées par Mgr Consalvi, secrétaire du conclave. Le Sacré Collège ne compte que 46 cardinaux, chiffre le plus bas vu depuis longtemps, car l'actualité politique a empêché le papisme de réunir des consistoires pour en créer de nouveaux. Sur ces 46 cardinaux, seuls 35 peuvent venir à Venise. Ont un rôle déterminant le secrétaire du conclave, Mgr Consalvi, et un cardinal tchèque, porteur des instructions de l'archiduc d'Autriche, François II. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, c'est finalement Barnabé Chiaramonti, un noble italien bénédictin, évêque d'Imola, près de Bologne, en Émilie-Romagne, plus connu pour sa course de voiture de Formule 1, âgé de 58 ans, qui est élu 251e pape. Il prend le nom de Pie VII, qui sera pape de 1800 à 1823, voulant manifester clairement sa volonté d'assumer l'héritage de son prédécesseur. Le pape Pie VII est confronté à la politique de Napoléon avec une nouvelle occupation de Rome en 1809. Arrêté, transféré à la forteresse de Savona, puis emmené à Fontainebleau en France, le pape Pie VII ne peut retourner à Rome qu'au printemps de 1814. À sa mort, le 20 août 1823, le conclave peut se réunir à nouveau au palais du Quirinal après une absence de plus d'un demi-siècle. Les cardinaux se divise de nouveau en deux grandes tendances. Les zélanti, défenseurs des droits et prérogatives de l'Église, et puis de l'autre côté, les partisans des réformes intérieures dans les États pontificaux et de la politique concordataire autour du cardinal Consalvi, l'un des deux candidats souhaité par le prince de Metternich, chancelier de cour et d'État de la monarchie autrichienne, le partisan des puissances. Il faut plus d'un mois pour élire Annibal Sermattei della Genga, noble italien né près de Spolète et nonce en Allemagne, représentant des Zélanti, qui défendent la liberté du pape, qui prend le nom de Léon XII, 252e pape. Au cours du conclave, faible et maladif malgré ses 63 ans, il a essayé de dissuader ses partisans de voter pour lui, assurant que, je cite, « l'état actuel de sa santé ne lui permettait pas de se charger de l'immense fardeau du pontificat ». Effectivement, il a un court pontificat de 5 ans et 4 mois. Le pape suivant, 253e, Pie VIII, lui succède le cardinal Francesco Saverio, François-Xavier Castiglioni, est un jeune canoniste réputé, puis évêque de Montalto dans le sud des Marches en Italie centrale, qui a résisté fièrement à l'occupant français, ce qui lui va coûter un exil à Milan puis à Mantoue. Conseiller du pape Pie VII, dans ses discussions avec Napoléon, il est nommé cardinal puis préfet de la congrégation de l'Index. Il reprend donc le nom de Pie lorsqu'il est élu pape à 68 ans. Chateaubriand, le grand écrivain français, alors ambassadeur à Rome, évoque longuement ce conclave dans ses mémoires d'outre-tombe. Il avoue que deux choses ne font plus les papes, les menées des ambassadeurs et la puissance des cours. Pourtant, Chateaubriand a demandé à son ministre les instructions à transmettre aux cardinaux français. Et lorsque trois d'entre eux arrivent à Rome, alors que le conclave a déjà commencé, Chateaubriand leur transmet le nom des 7 cardinaux à soutenir et 4 à repousser. Après 3 semaines, ce même Chateaubriand se sent bien impuissant. Il écrit « Il faut que j'agisse sur un corps invisible, renfermé dans une prison dont les abords sont strictement gardés. Je n'ai ni argent à donner, ni place à promettre. Je suis séparé par des murs et par des mystères d'une assemblée. À chaque instant, la scène varie. Tous les quarts d'heure, des rapports contradictoires me plongent dans de nouvelles perplexités. » Fin de citation. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, le 31 mars, Pie VIII est élu pape au 36e vote. Et Chateaubriand triomphe. Il écrit le jour même « Victoire, j'ai un des papes que j'avais mis sur ma liste, c'est un triomphe complet, il s'attribue une victoire où il n'est pour rien, évidemment. » le pontificat de Pie VIII est bref 1 an et 8 mois. Il s'ensuit, toujours au palais du Quirinal, un nouveau conclave plein de rebondissements. Il est connu par les lettres et les rapports de l'ambassadeur extraordinaire de la France, le marquis de La Tour-Maubourg, envoyé à son ministre. Sur les 56 cardinaux du Sacré Collège, 45 peuvent effectivement se rendre au conclave. Il s'ouvre le 14 décembre 1830 et dure près de 2 mois pendant l'hiver. Le marquis de La Tour-Maubourg, qui n'arrive à Rome que le 21 décembre, peut entrer un moment, 3 jours plus tard, dans l'enceinte même du conclave pour être reçu en audience par le Sacré Collège. Dans son discours, il assure que, je cite, « Sa Majesté, c'est le roi Louis-Philippe, dont la politique s'appuie sur le principe de non-intervention, fondement de l'indépendance des États, ne saurait avoir la prétention d'influer sur les sublimes travaux auxquels vos éminences se consacrent en ce moment. » Fin de citation. En même temps, il affirme que le roi des Français est, je cite, « jaloux de conserver la prérogative de la couronne que le vœu public a placée sur sa tête », c'est-à-dire qu'il se réserve d'exercer le droit de veto. C'est ce qui se produira de manière officieuse. Comme souvent, les cardinaux sont toujours divisés entre politicanti, favorables à l'Autriche, protectrice du Saint-Siège en Italie du Nord, et puis les zelanti, champions de la liberté romaine en face des puissances. La France est alors hostile au cardinal Lega, à Ravenne, jugé trop favorable à l'Autriche, et accusé d'être resté en relation avec la famille royale déchue, le Bourbon Charles X et les siens, après la fameuse révolution de juillet 1830, appelée les Trois Glorieuses, 27, 28, 29 juillet. L'ambassadeur d'Espagne oppose, lui, son droit de veto au cardinal évêque d'Imola, qui avait été nonce, c'est-à-dire représentant permanent du pape auprès d'un État, à Madrid. Il restait 2 cardinaux objets de suffrage, le doyen du Sacré Collège et un saint moine, le cardinal Bartolomeo Alberto, Barthélemy Albert, capellari, théologien vénitien, vicaire général des Camaldules, un ordre issu du Moyen-Âge du XIe siècle de saint Romuald, ermite et moine. Également préfet de la Congrégation pour la propagande de la foi, c'est-à-dire les missions étrangères, et âgé de 66 ans. Dans la nuit du 16 au 17 janvier, une bombe explose sous la façade du Quirinal. Sans doute une action des Carbonari, les révolutionnaires italiens. Et comme l'écrira un conclaviste dans son journal, les uns crurent à un coup de canon, d'autres à l'explosion d'une mine. L'appréhension fut presque générale et quelques-uns payèrent un tribut au ventre. Fin de citation. Finalement, le cardinal Capellari est élu le 2 février au 99e vote après 50 jours. Il prend alors le nom de Grégoire XVI et devient le 254e pape de 1831 à 1846. Le nom de Grégoire, évidemment, en l'honneur de Saint Grégoire Ier le Grand et de Saint Grégoire VII à la fin du XIe siècle. Deux grands papes du Moyen-Âge. 2 jours après son élection, des soulèvements révolutionnaires ont lieu dans plusieurs provinces des États pontificaux. Le nouveau pape doit demander l'intervention des troupes autrichiennes. Son encyclique, Mirari Vos, de 1832, marque les esprits par sa condamnation de l'indifférentisme. Le pape Grégoire XVI donne une impulsion décisive aux missions vers les pays extra-européens en réorganisant la Congrégation pour la propagation de la foi et en généralisant la création de vicariats apostoliques destinés à devenir à l'avenir des diocèses à part entière. Les troubles incessants qu'ont connus les États pontificaux durant son pontificat amènent le pape Grégoire XVI à prendre des dispositions en vue de la vacance du Saint-Siège. 4 bulles successives sont écrites, mais toutes gardées secrètes et non appliquées. Si le conclave ne peut pas se réunir à Rome, c'est le cardinal doyen qui choisira le lieu. À la mort du pape, si les cardinaux le jugent nécessaire, le conclave pourra s'ouvrir aussitôt, sans attendre l'arrivée des cardinaux plus lointains. La règle des deux tiers des suffrages exprimés demeure. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, le 1er juin 1846, à la mort du pape Grégoire XVI, les cardinaux présents à Rome jugent que, même si le climat politique à Rome et en Italie est agité, le temps des révolutions, il n'est pas nécessaire de déroger aux normes habituelles du conclave. On attend donc la fin des novendiales pour ouvrir le conclave. Il s'agit de l'ensemble des cérémonies funèbres qui se déroulent depuis le Moyen-Âge dans les 9 jours novendiales, qui suivent la mort du pape, ce qui permet aux cardinaux étrangers de rejoindre Rome. Plusieurs cardinaux se partagent la faveur des Romains. Les plus favorables aux grandes puissances européennes tiennent pour le cardinal Gysi, nonce à plusieurs reprises. Parmi les gens du pape, le vieux cardinal Micara, religieux capucin, prédicateur célèbre, est le favori. Mais son âge, octogénaire, et il est d'ailleurs le doyen du sacré collège, et sa santé précaire lui ôte toute chance sérieuse d'être choisi. Falconieri, l'archevêque de Ravenne, dont le nom circule comme papabile, est considéré comme zélanti pour l'indépendance du pape. Au sein du sacré collège, un certain nombre de cardinaux privilégient la continuité avec le pontificat précédent et pensent que l'élection du cardinal Lambruschini, secrétaire d'État du pape Grégoire XVI, le pape défunt, sera une garantie de stabilité. Une autre tendance souhaite un pape issu d'un diocèse et non de la bureaucratie vaticane. Un pape qui, à la fois, soit natif des États pontificaux, pourront bien connaître les difficultés et qui aussi soit informé des problèmes de l'Église à l'étranger. C'est ainsi que le nom du cardinal Giovanni Maria, Jean-Marie Mastai, évêque d'Imola, en Émilie-Romagne, commence à circuler, même s'il est moins connu des Romains. Et ça sera le futur pape. L'ambassadeur autrichien a écrit à son gouvernement qu'il serait un candidat acceptable. Le vice-consul sarde et l'ambassadeur napolitain, donc Italie du Nord, Italie du Sud, écrivent que le cardinal Mastai serait le prochain pape parce qu'il jouit d'une bonne réputation dans son diocèse et qu'il a su faire preuve, dans des heures difficiles, d'esprit de conciliation. Qui est ce fameux cardinal Mastai, le futur bienheureux pape Pie IX? Il a pour père le comte Mastai Ferretti, d'une famille enracinée à Senigallia, dans la marche d'Ancône, en Italie centrale, sur la mer Adriatique, depuis le XIVe siècle. Lui-même, son père, gonfalonier, maire de cette ville. Après des études classiques chez les piaristes, ce sont des clercs réguliers, des écoles pie, en Toscane, de 12 à 19 ans, il se dévoue à l'enfance abandonnée, comme directeur ecclésiastique d'un institut de garçons, qui reçoivent une formation générale et professionnelle tout en se préparant au sacerdoce. Il est ordonné prêtre en 1819 à 27 ans. Les papes Pie VII et Léon XII l'affectent d'abord à une carrière diplomatique. À 31 ans, il est auditeur à la nonciature nouvellement établie au Chili, en Amérique du Sud, qui vient de conquérir son indépendance. De retour à Rome, Mastai, le futur bienheureux pape Pie IX est nommé directeur du grand hospice Saint-Michel, qui, avec ses 2000 élèves, passe pour la première école d'art et métier d'Europe. Puis, en 1827, à la surprise du jeune prêtre, alors âgé de 35 ans, le pape Léon XII le nomme archevêque de Spolète, en Ombrie, au centre de l'Italie. 5 ans plus tard, il est transféré au siège d'Imola et devient cardinal à 48 ans en 1840. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, le Sacré Collège, l'ensemble des cardinaux, à la mort du pape Grégoire XVI en 1846, compte 62 membres, on a augmenté, dont 54 Italiens. Après avoir attendu au-delà des 9 jours traditionnels, et bien que les cardinaux ne soient pas tous arrivés à Rome, le conclave s'ouvre le dimanche 14 juin 1846 avec 50 cardinaux présents. Il semble évident que seul un Italien soit susceptible d'être élu. Les 3 cardinaux français, Charles de la Tour d'Auvergne, évêque d'Arras, le grand évêque d'Arras, Maurice de Bonald, archevêque de Lyon, et Joseph Bernet, archevêque d'Aix-en-Provence, ont reçu du chef du gouvernement, le protestant François Guizot, c'est une ironie de l'histoire, une note pour servir d'instruction à l'occasion du conclave. Cette note de 12 pages ne porte pas d'exclusive contre tel ou tel papabile, futur pape, elle se contente de brosser le portrait du pape idéal. C'est assez cocasse pour un protestant. Guizot ne cite pas explicitement le nom du cardinal Mastaille. Beaucoup prévoient un conclave long et un nombre élevé de scrutins. En fait, 4 scrutins suffisent et le conclave proprement dit n'a duré que 48 heures. Alors que son pontificat va durer près de 32 années, le plus long de l'histoire de l'Église, le conclave qui élit le bienheureux pape Pie IX, 255e pape de 1846 à 1878, que l'on peut prier abondamment particulièrement tous les 7 février, et bien, c'est 48 heures. Dès le premier tour, le 15 juin, les cardinaux Lambruschini, secrétaire d'État du pape précédent, et Mastaille obtiennent un nombre élevé de voix, 15 voix et 13 voix. Et par la suite, un seul, le futur bienheureux pape Pie IX, progressera régulièrement et de manière significative, 17 voix au deuxième scrutin, le 15 juin, 27 voix au troisième scrutin, puis 36 au quatrième scrutin, le lendemain, le 16 juin. La majorité des 2/3 canoniquement requise est atteinte. Alors que 27 bulletins portent déjà son nom, le cardinal Mastaille demande à être remplacé au dépouillement. 9 autres bulletins portaient encore son nom. Par modestie, le cardinal n'a sans doute pas voulu proclamer lui-même un résultat qui, de toute évidence, va lui être favorable. Il a préféré laisser cette tâche à un autre. Cette interruption de dépouillement est bien attestée par les documents conservés en archives. Et cette interruption a été embellie ultérieurement en un excès d'émotion en imaginant le cardinal qui s'évanouit. Le cardinal Mastaille veut prendre le nom de Pie IX en mémoire et reconnaissance pour le pape Pie VII à qui il devait d'être prêtre et à qui il avait succédé comme évêque d'Imola. L'acte canonique qui enregistre son élection est daté du 16 juin à 23h45. Vu l'heure tardive, près de minuit, l'annonce à la population de l'élection pontificale ne sera faite que le lendemain matin à 9h. Le long pontificat du bienheureux pape Pie IX est marqué par des actes magistériels importants. La proclamation du dogme de l'Immaculée Conception 1854, la publication du syllabus en 1864, catalogue des erreurs principales de notre temps, la réunion du concile œcuménique au Vatican 1869-1870, au cours duquel est proclamé le dogme de l'infaillibilité pontificale, en fonction de certains critères. Imaginez l'ampleur de ce pontificat et un conclave qui dure 48 heures. Comment ne pas y voir la marque ici incroyable du Saint-Esprit. Le pontificat voit aussi l'achèvement de l'unification italienne. Par les armes, le royaume d'Italie malheureusement annexe successivement plusieurs territoires des États pontificaux et le royaume de Naples. En septembre 1870, il s'empare de Rome. C'est la fin du pouvoir temporel des papes. Le bienheureux Pie IX proteste contre cette annexion effectuée par, je cite, des armes parricides et considère le nouveau pouvoir italien comme, je cite, usurpateur. Cette situation nouvelle et inédite, le Saint-Siège réduit à la seule enceinte du Vatican où le pape se considère comme prisonnier, amène le bienheureux pape Pie IX à prendre des dispositions nouvelles sur l'élection pontificale. Comme le pape avant lui, Grégoire XVI, il ne les rendit pas publiques. C'est de la prévention. Dans une première constitution, il est prévu que l'élection pontificale puisse avoir lieu dans une ville différente de celle où mourrait le pape et sans attendre les cardinaux absents. Dans une deuxième, le pape condamne toute ingérence des pouvoirs politiques et simplifie l'organisation matérielle du conclave en abrogeant l'antique fonction des gardiens du conclave, accordée traditionnellement aux autorités de la ville où se déroule le conclave. Enfin, la troisième constitution autorise les cardinaux, après la mort du pape, à procéder à l'élection d'un nouveau pape dans un autre pays et même à transférer le conclave déjà commencé dans un autre lieu si nécessaire, tant la situation politique inquiète le bienheureux pape Pie IX qui meurt le 7 février 1878. L'élection de son successeur est rapide. La première congrégation générale des cardinaux se tient le lendemain de sa mort. On appelle congrégation générale la réunion des cardinaux pendant la vacance pontificale, sous l'autorité du cardinal Kamerlingue et du cardinal doyen pour administrer l'Église et préparer le conclave. Après la mort ou la renonciation du pape, le siège apostolique est dit vacant, sede vacante, jusqu'à l'élection de son successeur. Pendant cette période, l'exercice du pouvoir pontifical est suspendu. Il n'est procédé à aucune nomination et aucune loi ne peut être promulguée ou modifiée. Elle est consacrée au choix du lieu du futur conclave. Depuis la fin du XVIIIe siècle, tous les conclaves, sauf un, on l'a vu, à Venise, ont eu lieu au palais du Quirinal. Mais suite à l'annexion de Rome par le royaume d'Italie en 1870, le palais est devenu la résidence de la famille royale italienne. Pour protester contre cette spoliation et par crainte d'intervention du gouvernement italien dans le déroulement de l'élection, les cardinaux décident de tenir le conclave hors de Rome, comme leur prédécesseur l'avait fait à Venise en 1799. On hésite alors entre Malte, l'île de Malte, la ville allemande de Munich, et autrichienne à l'époque, et une ville espagnole. Mais le sous-doyen du Sacré Collège, le cardinal Di Pietro, qui entretient des relations discrètes avec les autorités italiennes, obtient l'assurance du respect de la liberté du conclave. À la seconde congrégation générale, on décide donc de tenir le conclave dans l'enceinte du Vatican. En toute hâte, pendant les novenes diales, les 9 jours qui suivent la mort du pape, quelques 500 maçons, menuisiers, tapissiers et autres artisans doivent aménager des appartements modestes de 3 ou 4 pièces dans de vastes salles ou galeries du palais apostolique. Absolument pas prévu pour cela. Chaque cardinal a droit à une chambre, une salle à manger, car chacun mangeait séparément. Une autre chambre pour son conclaviste et une autre pour son majordome. Les votes se dérouleront dans la chapelle Sixtine. Pour préserver le secret des votes, on y installe de petits trônes recouverts de baldaquins où chacun pourra préparer ses bulletins à l'abri des regards du voisin. Ces baldaquins ne seront supprimés qu'à partir des conclaves de 1978 au XXe siècle. Le Sacré Collège compte alors 64 membres. 3 n'ont pas pu y participer. Nous sommes en 1878. Le cardinal archevêque de Rennes, malade, les cardinaux de Dublin en Irlande et de New York aux États-Unis qui sont arrivés à Rome trop tard. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, l'entrée de ce conclave se fait le 18 février 1878, en fin d'après-midi. Et il est bref, 36 heures. 3 votes suffisent pour trouver un successeur au bienheureux pape Pie IX. Le baron Bode, ambassadeur de France près le Saint-Siège, dans une dépêche adressée à son ministre la veille du conclave, résume la situation. Au moment où les cardinaux vont entrer en conclave, les probabilités d'élection paraissent être surtout en faveur du cardinal Pecci, camerlingue de l'Église, du cardinal Bilio, grand pénitencier, et du cardinal Monaco Lavalette, cardinal vicaire de Rome. Le camerlingue est appelé aussi camérier depuis les premiers siècles du Moyen-Âge. Choisi par le pape, dont il est un proche conseiller, il nomme les officiers de la chambre apostolique. Par la suite, et jusqu'à aujourd'hui, le cardinal camerlingue joue un rôle essentiel pendant cette vacance pontificale. Il constate officiellement la mort du pape, en informe l'Église, les nonces, les ambassadeurs permanents, et les autorités civiles, et il est chargé d'organiser le conclave. La qualification de camerlingue ne suffit pas à présenter le cardinal Vincenzo Giacchino Pecci, le futur pape Léon XIII. Il a été d'abord nonce à Bruxelles, puis nommé évêque de Pérouse en 1846 et créé cardinal en 1853. Sa longue expérience pastorale et sa personnalité en font un candidat idéal pour plusieurs pays. Le cardinal Bibbio, lui, est un religieux barnabite, longtemps professeur de philosophie et de théologie, consulteur de la Congrégation de l'Inquisition en 1864 et de la Congrégation de l'Index en 1865. Il avait pris une part importante à la préparation du syllabus du bienheureux pape Pie IX. Cardinal depuis 1866, il a été un des présidents du Concile Vatican I. Mais le ministre des Affaires étrangères français a chargé le cardinal Henri de Bonnechose, archevêque de Rouen, de porter l'exclusive de la France contre le cardinal Bibbio, si nécessaire. Au début du conclave, l'archevêque de Rouen en avertit le doyen du Sacré Collège. Et le cardinal doyen en fait certainement part au cardinal Bibbio, car il se retire de la compétition dès le début, en souhaitant que les cardinaux disposés à lui donner leur vote les reportent sur le cardinal Pecci. Le premier vote a lieu dans la matinée du 19 février. On sait que le cardinal Pecci arrive en tête avec 19 voix. Le cardinal Alessandro Franchi, préfet de la Congrégation pour la propagation de la foi, obtient aussi un nombre appréciable de voix. Ce premier vote est annulé pour vice de forme. Beaucoup de cardinaux n'ont jamais participé à un conclave et n'ont pas respecté les règles en vigueur. Au deuxième vote, le soir du même jour, le cardinal Pecci recueille 34 voix sur 61 votants, plus de la moitié. Il est élu au scrutin suivant, le troisième, dans la matinée du 20 février avec 44 voix. Il prend alors le nom du pape Léon XIII, 256e pape de 1878 à 1903, en reconnaissance pour le pape Léon XII, qui lui avait permis d'entrer au collège romain de l'Académie des Nobles en 1824. Le cardinal Joseph Guibert, archevêque de Paris, a dit à l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, le jour d'entrée en conclave, « Nous voulons un pape ferme sur les principes, modéré dans leur application. » Fin de citation. Le pape Léon XIII correspond largement à ce souhait. Certainement fidèle à la doctrine catholique, il se montre conciliant dans ses rapports avec les États. Il favorise le renouveau de la doctrine de saint Thomas d'Aquin, fonde la commission biblique, ouvre partiellement les archives secrètes vaticanes aux historiens, publie la première grande encyclique consacrée aux questions économiques et sociales, Rerum Novarum, de 1891, et incite les catholiques de France au ralliement à la République. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, la semaine prochaine, les conclaves porteront, notre histoire des conclaves portera sur les conclaves de Saint Pie X à Pie XII. Au début du XVIe siècle, le pape Jules II avait mis fin à la simonie, c'est-à-dire à la vente et à l'achat des choses sacrées. À la fin du XVIIe siècle, le pape Innocent XII avait mis fin au népotisme, le fait de favoriser sa propre famille. Eh bien, notre saint pape Saint Pie X va mettre fin au droit de veto.